Nous sommes mercredi 22 novembre 2017, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar.
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 Et c'est Doom.
Doom.
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton. C'était quoi ça?
C'est ma voix de dragueur.
C'est, voilà, c'est, ça a fait une espèce de gros...
Il égorge un cochon.
Non, il a... tu as un diablotin de Doom chez toi, en fait. Directement sur ta ligne, directement sur ta gorge. Et bonsoir Zergy.
Salut.
Et dans l'émission de ce soir, nous allons donc parler de Doom.
Doom.
Vous allez tous avoir mal à la gorge.
Ça va bien se passer.
Ça va très bien se passer. On va donc parler de Doom version 2016 sur Switch, du jeu en lui-même évidemment, puis ensuite peut-être un peu plus des aspects techniques notamment de ce portage, parce qu'il y a à mon avis pas mal de choses intéressantes à dire. Mais on va commencer tout de suite avec notre grand traditionnel tour de table de l'actu, et je laisse la parole à Antix, qui va démarrer avec une nouvelle particulièrement réjouissante.
Eh bien oui, mon cher mortal, puisque la semaine dernière, durant le dernier Dojo Bar, et pourquoi je prends cette voix
Et parce que nous sommes revenus à l'ORTF, à vous, Cognac G.
Eh bien oui, car je vais parler d'une personne connue, notamment des joueurs rétro, puisqu'il s'agit de Hirokazu Tanaka, notamment connu pour ses compositions sur le premier Metroid, Balloon Fight, mais aussi Mover et Earthbound. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que... bien des années après qu'il ait quitté Nintendo, le monsieur qui s'était surtout spécialisé entre deux boulots en freelance, s'était spécialisé dans le rôle de DJ en boîte de nuit japonaise sous le nom de Chip Tanaka.
Voilà, non mais des choix de carrière des gens.
Voilà, a décidé de sortir son premier album solo officiel. Le bien nommé Django, que vous pouvez trouver sur son Bandcamp gratuitement ou bien sur SoundCloud si vous avez un abonnement ou vous êtes prêt à vous infliger des pubs toutes les trois chansons. C'est un album qui est très chouette, qui est vraiment de la pure chiptune. Si vous avez joué à Earthbound, globalement vous n'allez pas être dépaysé parce que on y retrouve les sonorités du jeu Super Nintendo. Ainsi que le groove, c'est vraiment des musiques qui, même si elles sont en chiptune, sont vraiment très groovy. Donc je recommande très fortement d'écouter cet album, puisqu'il est très facilement accessible, même en Europe, vu les plateformes sur lesquelles on peut le trouver.
Et du coup, c'est chiptunes 16 bits, 8 bits, ou c'est juste 16 bits, ou c'est...
C'est un peu un mélange 16 bits, 8 bits, je dirais plus 16 bits, parce que moi ça sonne vraiment comme du Earthbound. Et globalement, ouais, ça n'a pas l'impression que c'est juste voilà, du 8-bit. Pour faire du 8-bit, il y a une vraie recherche musicale derrière. Franchement, c'est un truc qui s'écoute très très bien tout seul, notamment au boulot.
Et on en passera peut-être dans un dojo bar comme la semaine prochaine. On a un sujet qui ne concerne pas un jeu, donc on va forcément... prendre un sujet, enfin forcément prendre de la musique qui est de la musique un peu générale, peut-être qu'on passera un petit morceau de cet album de Hip Tanaka.
Donc voilà,
ça fait toujours plaisir ce genre de choses là.
Sachant que il y avait aussi, alors il a été aussi un petit peu présent sur SoundCloud, notamment lors des décès de Yamauchi et de Satoru Iwata, où il avait fait des petits mix de 2 minutes en reprenant des jeux sur lesquels il avait bossé et sur lesquels les personnes en question ont bossé, donc notamment pour Iwata, donc il y a maintenant 2 ans, c'était un extrait de Balloon Fight.
Oui, parce qu'effectivement ça fait partie des jeux des premiers jeux d'ailleurs programmés par Satoru Iwata, partie de ses premiers boulots chez Nintendo. C'est assez amusant.
Exactement.
Bref, on s'écoutera ça. Je pense que la semaine prochaine, je ferai une petite sélection, comme on a un sujet un peu rigolol la semaine prochaine, qu'on, d'ailleurs on va entamer un petit peu maintenant.
Avec des bois-boîtes.
Avec des bois-boîtes. Electronic Arts est en train de faire un rétro-pédalage assez monstrueux sur Star Wars Battlefront 2. Apparemment, la rumeur veut, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils auraient reçu un coup de fil directement de Disney, propriétaire de Star Wars, qui leur a donc concédé les droits pour faire un jeu. Et donc la rumeur veut qu'ils auraient reçu un appel directement de Disney leur disant les gars vous allez arrêter les conneries tout de suite parce que là sinon ça nous fait, enfin nous ça nous fait une extrêmement mauvaise publicité pour le prochain film et ça a pas l'air de vous aider non plus. Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, Electronic Arts s'est un petit peu fait bâcher par une grande partie de la communauté des joueurs pour sa politique sur les lootbox notamment. Sur le fait que pour avoir le jeu complet Star Wars Battlefront 2, fallait dépenser, je crois que c'est au total 5 900 €. Si on veut avoir le jeu complet. Ce qui est quand même assez violent. Une politique de DLC qui est... Enfin, avec Electronic Arts, on a l'habitude des DLC un peu délirants, mais là, c'est vraiment... Enfin, on double pas le prix du jeu, on le quintuple, et en plus c'est vraiment du pay to win, c'est-à-dire que les joueurs qui dépensent beaucoup d'argent sont ceux qui vont avoir le meilleur équipement et qui donc vont latter tout le monde. Et les paliers qui permettent aux joueurs d'atteindre ce niveau-là juste avec leurs skills étaient vraiment exécrablement élevés, mais de manière enfin, de complètement abusée. Donc ça a bien backlashé, ils sont bien repris plein la gueule. Là où je suis content, c'est que finalement le traditionnel vote with your wallet qu'ont l'habitude de dire nos camarades américains, votez avec votre portefeuille, c'est-à-dire n'achetez pas et ils arrêteront d'en faire, bah ça n'a pas suffi. Et le fait simplement que les joueurs aient gueulé beaucoup très fort, ça a permis quand même de faire bouger un peu les choses.
Alors ceci dit, le jeu c'est pas si bien vendu que ça hein, pour un jeu Star Wars avec autant de marketing et surtout disponible sur autant de plateformes différentes, il a fini que deuxième des ventes lors de sa sortie en Angleterre cette semaine. En version boîte. Je rappelle que l'Angleterre, c'est un petit peu la version américaine c'est un peu l'Amérique en Europe. En
tout cas, c'est le 51e État américain.
Oui, c'est un peu ça.
Certains diront que les États-Unis est en réalité le 5e pays du Royaume-Uni, mais. Ne nous battons pas là-dessus. Alors, surtout qu'en matière de jeux vidéo, voilà, ils sont très.
Très Xbox, très américain.
Peut-être même plus que les Américains eux-mêmes, parce qu'on sait très bien qu'en Angleterre, Nintendo, c'est pas trop ça. Et du coup, c'est plutôt surprenant qu'un tel titre, possédant une marque aussi forte, baisse autant. Enfin, soit pas premier, en fait, tout simplement. Surtout quand il sort sur PS4 et Xbox en même temps. Ce qui fait quand même globalement quasiment 100 millions de machines. Quoi.
Et sur PC aussi. Alors, oui. On n'a pas encore les chiffres. Apparemment, il s'est bien pété la gueule au Japon aussi, où il est sorti il y a seulement quelques jours. Donc il avait un peu de retard à sa sortie au Japon. Ce qui est étonnant aussi, parce que les Japonais sont des très grands fans de Star Wars. Et du coup, enfin voilà, c'est le jeu. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que le jeu se pète la gueule parce que la politique d'IA est lamentable. Mais j'ai l'impression que ça les a de toute façon pas aidés parce qu'ils se sont vraiment fait une très 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 mauvaise publicité ces derniers jours. Je précise, c'est bien fait pour leur gueule à ces trous de balles. Ça leur apprendra la vie. Et je suis très content finalement que Disney ait mis le holà et arrêté le truc en disant attendez, enfin jusqu'à présent la position d'Electronic Arts c'était de dire attendez, il n'y a rien de plus normal, il n'y a pas de souci, tout va bien, attendez, vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à pas payer. Je suis content que les joueurs aient gueulé plus que d'habitude parce que je pense que là c'était mérité. Et je suis très content, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'espère que ça l'est, je suis très content que Disney ait appelé pour dire « Attendez les gars, arrêtez les conneries ».
Ce serait pas surprenant avec la sortie de l'épisode 8 prochain aussi.
Voilà, ils sont en pleine promo aussi, ce serait pas du tout étonnant, surtout que je pense que la sortie de Star Wars Battlefront 2 était quand même calée pour sortir en même temps que l'épisode 8.
Oui, globalement c'est l'objectif, hein. C'est un produit dérivé de l'épisode 8, hein. Comme le précédent Battlefront était un produit dérivé de l'épisode 7.
Exactement, et donc le fait d'aller générer cette très mauvaise vibe est quand même pas bon du tout. Alors évidemment, je pense que Disney ne craint pas pour les entrées de Star Wars épisode 8, pas du tout.
Oui, mais il veut pas qu'une espèce de bad buzz, pour reprendre le terme, voyez-vous, soit associé à la marque Star Wars. Et Disney, ils sont... peut-être encore plus que Nintendo, vraiment très à cran sur l'image de leur licence. Du coup, ouais, que Star Wars ait des mauvaises pubs, bah, pour eux, il faut qu'ils interviennent, quoi.
Tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment éviter le bad buzz. Voilà, c'est le damage control, sachant que le rétropédalage de DA sur le sujet est quand même assez impressionnant.
Alors, ceci dit, c'est un semi-rétropédalage, parce qu'ils ont juste dit qu'ils désactivaient les microtransactions pour l'instant.
Oui, mais ça, je pense que pour le reste, on en reparlera la semaine prochaine, donc je vais pas, on va pas vous gâcher ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est... Mais la première réaction d'IS, ça a été quand même d'enlever le bouton permettant de demander le remboursement du jeu parce qu'on n'est pas satisfait. c'est quand même, enfin, c'est très con. T'as plein de gens qui demandent le remboursement du jeu parce qu'ils sont pas satisfaits. Résultat des courses, t'enlèves le bouton pour demander le remboursement du jeu, comme ça le problème est réglé. Non, Electronic Arts, non, ça ne règle pas le problème. Tu masques le problème dans le meilleur des cas. Tu rends les gens encore plus mécontents parce que, enfin, c'est une politique qui est juste exécrable.
C'est quand puis, même. Comme je l'avais dit la semaine dernière, les microtransactions, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en vrai, le souci du jeu, c'est, d'après Gamekult, et vu ce que j'ai entendu, c'est l'air vraiment problématique, c'est qu'au final, comme tout ce que tu veux obtenir, et enfin tout ce que tu vas avoir en termes de personnages, d'upgrade, est tiré au hasard, du coup, ton évolution de jeu, elle est vraiment compliquée. Et au final, les lootbox, les paiements sont une partie du problème, mais au final, le vrai problème, c'est les lootbox et la façon dont elles conditionnent la progression de ton avatar et ta sensation de jeu, quoi.
Tout à fait. Mais ça pose effectivement un vrai problème quand ça devient la mécanique principale. Je pense que... on discutera plus longuement la semaine prochaine, mais je pense que le problème vient pas vraiment des lootbox en elles-mêmes, mais du fait qu'elles sont devenues... Elles sont passées de... c'est un accessoire du jeu rigolo, c'est-à-dire que tu finis une partie, t'es bien classé, t'en gagnes une, t'es content, c'est marrant, ça devient l'attraction principale et ça devient la mécanique de jeu principale. Je pense que quand tu en arrives là, c'est que tu t'es un peu perdu en route. J'ai pas d'analogie qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire quand tu te retrouves avec la queue qui remue le chien et pas le chien qui remue la queue, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et t'as perdu quelque chose en route, t'as perdu ta boussole. Bref, je vais enchaîner avec Mecton qui a une toute petite actu très rigolote mais qui a un grand rapport avec ce qu'on vient de dire et qui m'a beaucoup fait rire en off, donc du coup j'en profite, je lui laisse la parole.
Ouais, a priori, donc IA se prend un bashing pas possible, ça vient de partout. J'ai même vu passer des articles dans des médias généralistes quoi, qui se posaient le problème. A priori, ça commence même à gueuler côté UFC que choisir. En train de discuter de tout ça, bon, peut-être que on causera là-dessus la semaine prochaine. Et oui, donc on voit passer énormément de... C'est devenu un mème en fait, de se foutre de la gueule de EA là-dessus. J'ai même vu passer une petite image, c'était un port de manette PS4, une manette PS4 avec un port qui permet de foutre ta CB directement dans ta manette.
Je trouvais ça vraiment sympa. C'est une bonne idée, je pense.
Il y avait aussi les parodies de la scène du combat final entre Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3 où Obi-Wan dit Anakin, mais tu ne peux pas vaincre.
Je suis plus haut que toi.
Je suis plus haut que toi. Et du coup, ils ont changé la scène pour que Obi-Wan dise je ne peux pas vaincre, j'ai pris un pack à 40€ sur Battlefront 2.
Ah, c'est bon, ça c'est vraiment bon. Ouais, donc début de soirée est sorti le trailer d'un jeu que j'attends beaucoup, To the Moon 2. Sous-titré Finding Paradise. To the Moon, c'est bien, jouez-y. Donc, tout petit jeu fait sous RPG Maker par une équipe Rikiki, et même dans leur trailer, ils ont réussi à placer un petit tone sur le sujet en foutant des lootbox dans un... Faut imaginer un jeu en 2D sous RPG Maker, et t'as une salle blindée de coffres qui te pète le jeu. Même là-dedans, ils ont réussi à...
C'est tout à fait l'état d'esprit finalement. Je profite un peu du bad buzz et je fais connaître mon jeu au passage, c'est pas plus mal.
C'est des voilà. Project Rex aussi fait plaisir en parlant de son prochain jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, si je me trompe pas. Et quand on leur. Je sais plus si on leur a posé la question ou s'ils ont abordé le sujet d'eux-mêmes, mais globalement ils ont dit que c'était pas du tout pour leur truc les lootbox et que ça se faisait pas. En bâchant un petit peu lié au passage, hein, parce que c'est toujours très drôle de mettre un petit tac à Electronic Arts.
Mais je pense que tout le monde met son petit taquet à Electronic Arts, c'est que c'est effectivement très drôle.
Ça fait du bien.
Ça fait plaisir de temps en temps, surtout que là c'est vraiment parfaitement légitime. Autant d'habitude, ouais. On pourrait peut-être nous taxer de mauvaise foi, là je pense pas. Là c'est vraiment.
Dans le trailer pour le DS et Zelda d'ailleurs, alors ça c'est une info exclusive que j'ai eue parce que mon oncle travaille à Nintendo Europe.
Oui.
C'est que en fait, dans le prochain trailer du prochain Zelda, Link va ouvrir un coffre et là on va nous dire, mais en fait c'est toujours le même trésor, il n'y a rien qui est aléatoire dans Zelda.
Ah merde.
C'est bon ça.
Ce serait... Non mais là je pense qu'ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé quoi. Mais bref. On va passer au plat de résistance. Il y a monsieur Ramsey qui nous a envoyé un petit message pour dire ça parle de quoi ce soir. Eh bien ce soir nous allons parler de Doom 2016. Et en attendant on va s'écouter un petit... Vous êtes flippant.
Petit
pas possible, ça y est, ils sont incontrôlables. En attendant, on va s'écouter un petit morceau qui s'appelle Welcome to Hell, Bienvenue en Enfer, la version alternative. C'est une des musiques de combat de Doom, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais alors, la façon dont les musiques sont faites, c'est vraiment...
Doom 1 ou Doom 4 ?
Alors, on en parlera tout à l'heure. Pour moi, s'il s'appelle Doom, c'est pas pour rien, et effectivement, ça se justifie. C'est un reboot au sens propre, je pense. Bref, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Doom.
C'est le retour en enfer. Pour parler de Doom 2016, alors 2016 alors qu'on est en 2017.
C'est 2017 sur Switch, ça va.
C'est 2017 sur Switch, mais ça va, tu vois. Je m'étais pas bien rendu compte moi à quel point c'était un jeu qui était quand même ultra important en 2016. Parce que j'y ai joué en fait qu'en 2017, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, j'ai dû y jouer pour la première fois il y a à peu près 6 mois, sur PC. Dans des conditions pas idéales, faut quand même le dire, parce que mon PC c'est pas la folie. Donc là par contre sur la version Switch j'ai pu m'y mettre vraiment sérieusement, et le fait de pouvoir y jouer dans le métro c'est quand même une très bonne nouvelle, enfin ça marche plutôt bien.
Alors,
dans les chiottes, la meuf à côté de qui j'étais assis dans le RER a dû se poser quand même pas mal de questions.
Hein. Oh, je pense que les mecs à côté de moi quand je joue à Fire Emblem Warriors se posent les mêmes questions.
Alors là, je suis pas sûr que ce soit très comparable, parce que tu vois...
Attends, c'est pas le même concept à base de... T'es tout seul et tu tabasses des millions de mecs à l'infini.
Alors, c'est...
C'est pas
il y a moins de sang dans le mien, je suis d'accord.
Il y a peut-être un peu moins de sang, mais surtout quand tu commences à sortir la tronçonneuse et couper des mecs en deux, tu vois que la meuf qui est à côté de toi, elle fait genre, il se passe quoi ?
Oui, bon, moi je les coupe pas en deux avec mon épée comme
voilà.
Ça.
Tu les, ça fait paf, 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 et après ils meurent, ils disparaissent en fait. Enfin voilà. Là dans Doom, ils disparaissent aussi, mais ils disparaissent dans une giclée de sang.
Alors pour moi aussi, des giclées de quelque chose avec plein de trucs lumineux et tout, c'est tout mignon. Hein.
Putain, ce serait drôlement bien qu'il y ait une version pour gamins de Doom, en fait.
Rainbow.
Doom Rainbow, c'est le sang est remplacé par juste une espèce de shader, effectivement, arc-en-ciel.
Je suis sûr qu'ils l'ont fait sur un mode de Doom ou Doom 2, tu vois.
Franchement, oui, ils ont dû faire le mode Teletubbies.
Alors, le mode Teletubbies, j'en connais plein des jeux avec un mode Teletubbies, je vous le déconseille. Hein.
Donc, par exemple, Left 4 Dead, il me semble.
Ah oui, Left 4 Dead, ouais, ça m'a traumatisé, le mode Teletubbies de Left 4 Dead. Je vous assure que c'est vraiment flippant, quoi.
Unicorn of Doom. Est-ce que je clique sur
play ? Non, ne télécharge pas ça. Alors, avant d'aborder spécifiquement ce qui fait la spécificité de la version Switch, on va parler du jeu un peu plus en général. J'aime pas le terme de reboot dans le jeu vidéo, surtout qu'on en a vu quelques-uns ces dernières années qui avaient de reboot que le nom. Je pense à Tomb Raider, le reboot, qui est pas grand-chose à voir avec le Tomb Raider original. Mais il y en a plein d'autres en fait qui sont des reboots qui n'ont pas grand chose à voir, qui sont parfois même ratés. Je pense à Splatterhouse qui était quand même pas extraordinaire, même si pas aussi mauvais que la presse a bien voulu le dire, mais qui était tout à fait passable. Là je trouve que le terme de reboot est plutôt bien adapté parce qu'effectivement c'est vraiment un retour aux sources. Par rapport à Doom 3 qui était une espèce de tentative de FPS Call of Duty-isé avec du script partout et...
Une torche.
Une torche et qui finalement enchaînait pas les ennemis comme enchaîne Doom. Là, tu retrouves vraiment les sensations de Doom 1 et Doom 2, savoir t'entres dans une pièce, il y a plein de monstres, t'as tes armes et en fonction des munitions que tu as, des armes que tu as, de la maîtrise que tu en as et des types d'ennemis que t'as en face, tu vas commencer par t'attaquer au diablotin, puis t'attaquer aux zombies, puis t'attaquer à tel monstre, puis t'attaquer à tel monstre, et t'es vraiment obligé de faire des priorités. En fonction de ton niveau d'équipement, de ton niveau de maîtrise l'arme, du nombre de munitions que tu as.
Ça ressemble un peu au boulot, en fait.
C'est oui, beau, voilà. Ce que tu dis.
Faut éliminer les tâches qui vont le plus vite en premier, puis les suivantes. Non, mais c'est ça, ça ressemble un petit
peu. Tout est une gestion de priorité dans la vie. D'ailleurs, tuer des démons sur Mars, c'est une sorte de travail, finalement.
Bah, c'est ton boulot en tant que Doomgi.
Le fameux Doomgi.
L'homme le plus classe du monde.
Je suis sûr qu'il s'appelle Pierre.
Mais c'est possible qu'il s'appelle Pierre. C'est ton boulot d'aller éliminer les zombies machin et d'envoyer chier le scénario. Ça fait partie du. Alors, quand même, petit bémol, au départ ils envoient chier le scénario, puis à un moment il revient quand même un peu le scénario. Voilà, c'est quand même un peu bizarre. Là où le jeu est une vraie réussite, en revanche, c'est que finalement, le système de Doom, qui était très basique, où c'était, comme on l'a dit la semaine dernière, monstre-clé-porte, finalement, il n'y a pas tellement de variété par rapport à ça. Là, ils ont carrément éliminé les clés, c'est-à-dire que tu continues de ramasser un badge jaune, un badge rouge, un badge bleu dans le jeu, mais en réalité, non seulement tu les gardes d'une mission sur l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que tu as trouvé le badge bleu, tu es équipé du badge bleu en permanence, mais en plus, c'est vraiment juste pour verrouiller des portions de niveau avant d'y aller. L'essentiel, c'est les arènes. En fait, le jeu va se découper de manière assez simple. Tu as une espèce de couloir dans lequel tu vas éventuellement avoir des zombies, des petits monstres, des choses comme ça. Tu vas avoir des zones dans lesquelles il va y avoir 2 ou 3 monstres à éliminer qui servent essentiellement de remplissage ou de te permettre à toi de re-remplir tes munitions ou de re-remplir ta vie. Et derrière, tu vas enchaîner avec une grosse arène. Quand tu arrives dans l'arène, tu vas aller soit déclencher un événement, soit le simple fait de rentrer va déclencher l'événement. Ça verrouille toutes les portes. Et tant que tu n'as pas tué tous les démons, bah, de toute façon, tu sors pas. Donc comme ça, le truc, il est simple. T'as plus d'histoire de clés, finalement, pour ouvrir les portes, ou de clés à trouver, ou je ne sais quoi, ou de passages secrets. T'as quelques passages secrets, t'as quelques zones secrètes, mais l'essentiel, c'est ça. C'est finalement, tu navigues dans un couloir, t'arrives dans une arène, tu butes tous les monstres, une fois que tu les as tous butés, la musique ralentit, ton battement de cœur ralentit aussi, ton adrénaline redescend, et tu peux te balader, ramasser les derniers bonus, et en fait, t'as ouvert la suite du niveau, et tu te préoccupes pas forcément de retourner dans l'arène ou d'aller chercher dedans. Et c'est une approche qui est assez intéressante parce que finalement, ça fluidifie vachement l'expérience. Tu sais que une fois que t'as éliminé le dernier monstre de l'arène, il se passera plus rien. La musique s'arrête, donc tu sais que c'est bon, tu peux souffler. Tu peux commencer à verrouiller, enfin à regarder un petit peu autour de la carte, voilà. Et tu sais que jusqu'au prochain, la prochaine grosse arène, t'auras effectivement peut-être quelques monstres de ci, de là, mais t'auras jamais rien de très sérieux.
Et du coup, tu fais pas grand-chose d'autre que d'enchaîner les arènes et tuer des monstres au final.
Bah exactement, mais en gros, c'est quand même
c'est bon.
Voilà, c'est le cœur du gameplay de Doom, en réalité. C'est effectivement, tu t'arrives dans une arène, fonction de ton état de santé et de tes munitions, des armes dont tu disposes, des monstres qu'on te propose, bah tu vas aborder ça de manière un peu différente. La topologie du terrain va jouer aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines arènes dans lesquelles t'as intérêt à aller te planquer derrière certains trucs, à aller... Les arènes sont très verticales, et ça, c'est vraiment super agréable, surtout pour un FPS console où t'as rarement de la verticalité. Là, t'en as de la verticalité. Et dès que t'as récupéré le double saut, je te garantis que la verticalité, tu t'en sers vachement. Et donc, bah voilà, c'est à toi d'aborder la situation correctement. Et en général, tu vas mourir 1, 2, 3, 4 fois avant de trouver le bon enchaînement, de pas te faire buter par machin, de voir que, bah, à partir d'un certain moment, t'as... un gros chien de l'enfer qui arrive à tel endroit et qui va bien te faire chier, donc t'as intérêt à aller monter à tel endroit pour aller le buter rapidement, et voilà. Et tu fais que ça. Et pareil, dans les arènes, alors, pas forcément du début du jeu, plus vers le milieu du jeu, tu commences à avoir ça, tu as quasi systématiquement un bonus.
C'est-à-dire
Quad damage, donc dégâts multipliés par 4, célérité, c'est-à-dire ta vitesse est augmentée de 100%, alors ta vitesse de déplacement et la vitesse de tes tirs, c'est-à-dire ta vitesse tout court est augmentée de 100%, tu as un bonus, genre il y a le Beast. Alors le Beast, c'est dans Quake 3, je sais pas comment il s'appelle là, je crois que c'est le Berserk.
Berserk, ouais.
Et en fait, tu peux plus utiliser tes armes, mais si tu donnes un coup de poing au moindre démon, tu l'élimines d'un coup. Et dans une gerbe de sang absolument phénoménale. C'est-à-dire tu leur écrases la gueule, mais de manière ultra bourrine. Alors évidemment, ça dure 10 secondes, 20 secondes, donc le Berserk, il a un certain endroit dans l'arène, faut que tu le ramasses au bon moment. Parce que si tu le ramasses au tout début, quand il n'y a pas encore assez de monstres, c'est pas rentable. Si tu le ramasses trop tard, quand il en reste quasiment plus, bah, t'as l'impression de l'avoir gaspillé.
Je confirme.
Voilà, et faut le ramasser au moment où t'as les monstres les plus dangereux qui sont là, ou les plus rapides, ou... Voilà. Et c'est pareil, ça va influencer ton choix d'arme. Quand t'as le quad damage, t'as vraiment intérêt à utiliser des trucs genre plasma gun, c'est-à-dire qu'on a des gros débits et qui font déjà un gros DPS de base, mais qui font du coup un encore plus gros DPS. Et pareil, il y a tout un tas de subtilités de ce genre-là. T'as intérêt à utiliser des armes comme le plasma gun plutôt sur les ennemis très statiques. t'as intérêt à utiliser le fusil à pompe sur les ennemis qui sont plutôt très mouvants. Ton lance-roquette, t'as intérêt à te le garder pour les mobs qui sont des putains de sacs à PV. Enfin voilà, tout le gameplay du jeu va tourner vraiment autour des arènes et du fait de les aborder le mieux possible en fonction de à la fois la topologie du terrain, à la fois l'état dans lequel tu te trouves, à la fois ce qu'on te propose comme bonus, à la fois ce qu'on va te présenter comme monstre et l'ordre dans lequel on te les présente. C'est-à-dire que les arènes commencent souvent assez petits, c'est-à-dire que tu vas avoir plein de diablotins, quelques zombies, donc finalement du menu fretin. Après, tu vas commencer à avoir des plus gros monstres. Il y en a, je sais plus comment ils s'appellent là. Tu sais, les mecs qui n'ont pas d'œil, là, les gros. T'as forcément dû en croiser. Les gros balèzes qui encaissent bien, et mais qui ont que du corps à corps.
Ah oui, ceux qui ont une tête d'autoro dans l'original, c'est ça ?
Alors, ouais, je crois que c'est ça.
Ok. Je ne sais plus. Les Minotaurs, je les appelais quand j'étais jeune.
Ouais, alors non, je parle de l'ennemi d'avant. Les Minotaurs, c'est ceux qui ont effectivement des cornes et qui sont absolument atroces d'ailleurs. C'est des putains de sacs à PV qui font des dégâts monstrueux. Non, je parle de ceux qui sont plus petits, plus agiles, tu sais, qui te sautent dessus et qui t'écrasent. Faut que j'aille regarder, j'ai plus le nom en tête. Des monstres, on va les appeler comme ça.
Yeah.
Bien.
C'est bien, des démons. Mais enfin voilà, on va commencer souvent les arènes assez petits, puis après tu vas éventuellement avoir une invocatrice. Alors l'invocatrice, elle est chiante parce que
elle fait peur.
Elle fait peur. Elle se déplace super vite dans l'arène, donc elle reste très statique, puis elle se déplace super vite à l'autre bout de l'arène, donc c'est juste ultra pénible parce que si tu t'en rapproches, bah à un moment elle finit par se casser et du coup tu t'es approché, t'as encaissé des dégâts pour rien. Elle envoie des vagues d'énergie, elle invoque des zombies. Enfin, elle est juste péniblissime. Puis après, t'as genre les trucs, genre les cacodémons, les machins comme ça, qui étaient là, genre... Donc il y a pas mal d'arènes où au début, tu te dis, mais putain, mais comment je vais faire ? Attends, il y a 50 000 trucs, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à faire tout ça en même temps. Et en fait, au bout d'un moment, tu prends le pli, tu finis par apprendre quelles armes sont les plus efficaces contre tel démon, quel démon tu aimes bien aller éliminer en premier, et quel démon tu vas plutôt aller te garder en milieu d'arène pour aller recharger un peu ta vie. Enfin voilà, tu commences vraiment à apprendre les différents trucs et aussi à savoir que t'as entre guillemets des espèces de coups bonus parce que ce qu'on n'a pas expliqué jusqu'à présent mais qui fait quand même partie intégrante du gameplay du truc.
Les chevaliers de l'enfer, c'était ça.
Et c'est peut-être les chevaliers de l'enfer, c'est possible. Mais voilà, quand tu blesses un ennemi suffisamment, il se met à clignoter et quand tu te rapproches et que tu veux lui donner un coup de coude, donc en cliquant sur le stick de droite.
On en parlera.
Voilà. Tu le déchires en deux, littéralement, ou tu lui mets un gros coup de poing dans la face, enfin, tu l'achèves, et quand tu l'achèves, en fait, il te rend de la santé. Et, ou de l'armure, et éventuellement un tout petit peu de munitions. Mais vraiment pas grand-chose comme munitions. Donc, tu as parfois grandement intérêt à ne pas éliminer les petits ennemis, genre zombies, diablotins, les ennemis très mobiles, mais qui prennent pas beaucoup de dégâts, tu as intérêt à te les garder finalement pour le milieu de l'arène, parce que comme ça, tu vas mettre 2-3 coups de fusil à pompe, tac, un petit glory kills dans la tronche, pouf, tu recharges ta vie, et tu peux de nouveau aller attaquer les gros mobs. Et ça, c'est quelque chose, c'est un rythme qui vient très 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 vite. Parce que t'apprends très 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 vite à t'obliger à faire ça, parce que sinon, c'est très compliqué d'arriver à survivre. Faut voir que même en niveau de difficulté relativement bas, un cavalier de l'enfer ou un Hell Baron, là, les barons de l'enfer, les gros minotaures.
Ah bah c'est ceux-là, voilà.
Les barons de l'enfer.
C'est ce dont je parlais, ouais.
Voilà, mais moi je parle de celui d'avant, celui qui a pas de cornes.
Les chevaliers, ouais.
Chevaliers. Donc les chevaliers, je veux dire, ils te mettent 2-3 coups, tu meurs. Hein. Même en niveau de difficulté, moi je joue en fais-moi mal. Parce qu'en ultra-violence, ça me paraît assez...
La douleur est source de plaisir.
Voilà, la douleur est source de plaisir. Pas problème. Donc j'ai effectivement au niveau fais-moi mal qui est le niveau de difficulté, c'est pas le mode facile, c'est le mode moyen.
Normal, genre. Ouais.
Ouais, voilà.
Parce qu'après il y a fais-moi mal.
Fais-moi mal, oui.
Pas mal.
Bah c'est le niveau de Doom, il y a je suis trop jeune pour mourir, qui est le premier niveau de difficulté. Ensuite il y a fais-moi mal et là il y a ultra violence qui est le suivant, puis ensuite il y a nightmare qui est
Ultra Violence.
Et il y a Ultra Nightmare. Et je sais que sur la version originale de Doom, Nightmare, en fait, c'était un mode où tous les monstres ressuscitaient au bout de quelques secondes.
Oh, salope.
c'est d'une violence absolument inouïe. C'est-à-dire que là, quand tu abordes une arène, tu défonces tout le monde, mais faut te dire que même une fois que t'as défoncé tout le monde, ça durera pas très longtemps, donc t'as intérêt à vite activer l'interrupteur ou récupérer la clé, à te casser. Donc t'es obligé d'être en permanence sur le qui-vive. Je ne sais pas ce que fait le mode Nightmare et Ultra Nightmare dans Doom 2016. J'ai pas encore débloqué, donc je ne sais
Il
pas.
Ça fait peur.
Ça fait peur, ça c'est sûr. Juste pour reprendre, donc voilà, les glory kills, c'est un truc dont on apprend très vite à se servir, ça rythme vraiment la partie, c'est-à-dire que voilà, t'as un chevalier de l'enfer qui arrive, bah ok, tu le défonces, machin, tu t'éloignes, tu reprends tel fusil, tu vas essayer de lui faire des dégâts, tu prends ton lance-roquette, et puis bah, une fois que tu l'as abattu, tu vas aller défoncer un diablotin, défoncer un zombie, défoncer un petit ennemi quelque part, en attendant que l'invocatrice arrive, que le caco-démon arrive, que le gros lard dégueulasse, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là aussi, mais ils sont juste ignobles. Débarque, que les chiens de l'enfer débarquent. Enfin bref, faut tout le temps être sur le qui-vive et finalement tu vas pas forcément faire du crowd control immédiatement, tu vas vraiment jouer ça beaucoup plus finement que ce qu'on imagine au départ en tout cas. Et ça c'est intéressant. Et le dernier élément de gameplay rigolo, c'est la tronçonneuse.
Ouais.
En accès direct sur le bouton Y, parce que voilà, pourquoi pas. Et en fait, la tronçonneuse. Si tu tronçonnes un ennemi, tu vas consommer une cartouche d'essence, en gros, c'est-à-dire que ta tronçonneuse de base, elle a trois réserves d'essence, on va dire. Quand tu élimines un petit ennemi, tu en consommes une, et à ce moment-là, l'ennemi commence à cracher plein de munitions. Donc tu l'élimines d'un seul coup, tu le tues, c'est un one-shot, quel que soit l'ennemi sur lequel tu utilises la tronçonneuse, à condition d'avoir suffisamment d'essence. Et une fois que tu l'as éliminé, tu récupères plein de munitions. Et le truc rigolo avec la tronçonneuse, c'est que c'est un one-shot. C'est-à-dire que si tu augmentes ta capacité de munitions, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te mets à avoir 3, 4, 5, exactement, 6, 7 réservoirs sur ta tronçonneuse, bah, tu peux commencer à éliminer des très gros ennemis, genre caco-démon, en un seul coup. Et ça peut commencer à devenir vachement intéressant tactiquement de te garder ta tronçonneuse pleine et de juste éliminer... au milieu de la fight, un très 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 gros ennemi qui est vraiment très emmerdant, t'arrives, tu le tronçonnes en deux pour pas t'emmerder, tu récupères plein de munitions et tu continues ton arène tranquillement. C'est pas beau la vie, franchement. Ça me donne pas envie.
Je reviens juste sur ce que tu disais là, sur l'utilisation du Glory Kill. Alors je sais pas si ça a été précisé la semaine dernière ou pas, mais ça fait du bien en 2016-17 de voir un jeu où ta vie ne se régénère pas quand tu te planques quelque part. Donc t'es vraiment obligé d'utiliser le système de Glory Kill pour jongler avec ta vie, que tu en aies toujours un minimum avant de te faire défoncer.
Il y a pas d'autres moyens de récupérer sa vie, genre
il y en a dans l'arène sur la map, mais en plein combat, il y en a pas beaucoup dans les arènes. Enfin de celles que j'ai passées, il y en a pas beaucoup.
Alors si vous allez voir le Twitch du dojo, enfin la vidéo de YouTube que j'ai publiée hier sur le dojo, il y a un moment où je fais une des arènes, il y a un cavalier de l'enfer qui débarque, et en fait, juste derrière moi, il y a un truc qui te redonne toute ta vie. Et en fait, j'ai été activé le truc qui redonne toute la vie pendant que le cavalier de l'enfer était juste derrière moi en train de bombarder le cul. Je peux vous garantir que c'est pas confort. Pas confort du tout comme situation. Alors c'est bien, pendant l'animation, t'es invulnérable, a priori. Parce que j'ai pas pris de dégâts. Mais tu te retournes très 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 vite. Hein. Tu fais vraiment beaucoup beaucoup moins le mariole quand ça t'arrive. Mais effectivement, alors Antix, pour te répondre, il y a de la vie qui est répartie sur certaines arènes, en fait, il y a de la vie de temps en temps, parce que sinon je pense que ce serait quand même un peu raide. En tout cas,
dans les difficultés dans lesquelles je suis,
il y a des armures. Alors les ennemis drop des armures, mais vraiment très rarement. J'en ai vu de temps en temps, mais c'est en général des petits trucs de 5 ou de 10, pas plus. Donc effectivement, t'as souvent des armures, mais c'est un petit peu comme les pouvoirs spéciaux répartis dans les arènes, si tu veux, ça fait partie des trucs où quand t'arrives dans l'arène... Alors il y en a qui se déclenchent dès que t'arrives, c'est-à-dire tu touches terre à un endroit et de toute façon les monstres commencent à débarquer.
Okay.
Et il y en a d'autres que tu déclenches volontairement, c'est-à-dire que tu vas aller arracher un gore nest, un nid de je sais pas quoi.
Ouais, oui.
Tu vas aller arracher un truc et là c'est toi qui déclenches l'arrivée des ennemis. En gros, c'est une espèce d'event un peu à la Left 4 Dead où finalement t'actives le truc, je sais pas quoi, ça sonne une sirène et tous les zombies débarquent. C'est exactement le même principe. Donc là où t'as un événement déclencheur, en fait, tu peux faire un peu de reconnaissance dans l'arène et te dire ok, il y a un bouclier là, il y a de la vie là, il y a un quad damage ici, il y a des munitions de BFG à tel endroit, il y a des munitions qui sont aussi réparties dans l'arène. Et tu peux choisir en fait de te dire finalement, je sais que le bouclier est là, donc. Au milieu de la fight, je vais aller récupérer le bouclier quand le mien sera à peu près défoncé pour pouvoir me laisser plus de chance. Ça, tu peux le faire. Mais le mécanisme essentiel, ça reste quand même les Glory Kills, parce qu'effectivement, ta vie se recharge pas du tout. Et le moyen, en fait, le plus rapide et le plus simple dans une fight de se recharger, c'est ça. Et au départ, tu te dis que ça va être gadget et que ça va être chiant, parce que toutes les 30 secondes, il va falloir que tu le fasses. Mais en fait, ça rythme vachement le jeu. Et ça te permet vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment un élément de gameplay utile. C'est pas juste gadget, c'est pas juste pour faire un truc joli où tu frappes un démon en pleine tête. C'est vraiment, t'es obligé d'apprendre à t'en servir correctement. Faut vraiment pas le faire n'importe quand. Si tu fais plein de glory kill au tout début d'une arène, ben tu pourras que très rarement en faire sur les gros mobs, donc c'est très compliqué, tu vas pas récupérer beaucoup de vie dessus en plus. T'es vraiment obligé de doser ça correctement, et ça fait partie de l'apprentissage du jeu d'arriver à le doser. De même que l'utilisation des power-up.
Est-ce que tu veux parler des missions qu'on a de temps en temps, de l'évolution de l'équipement? Ça, pour moi, c'était une grosse nouveauté. Je m'attendais pas du tout à devoir pexer certaines compétences.
Alors oui, il y a des compétences qui augmentent. Et effectivement, c'est assez surprenant parce que t'as un petit côté... Alors t'as plusieurs bonus. On va commencer un peu dans l'ordre. Chaque fois que tu termines une arène ou quand t'as suffisamment cassé d'ennemis ou que tu découvres des zones secrètes, ça rapporte des points d'armes, je crois, dans des points d'attaque.
Je sais plus comment ils appellent ça.
S'appelle
ça. Il y en a deux types, en tout cas.
Voilà, il y a des points, on va appeler ça des points d'armes. Et en fait, tes points d'armes te permettent d'améliorer les armes que tu possèdes. N'importe lesquelles. Alors, à condition d'avoir débloqué au préalable, auprès des drones de l'UAC qui se baladent un petit peu partout dans le complexe martien, tu vas aller en fait voir le drone, et en gros, tu vas pouvoir débloquer une compétence pour une arme. Typiquement, le fusil à pompe, t'as deux modules secondaires, voilà, c'est des modules en plus exactement comme ça s'appelle, t'as deux modules secondaires à débloquer. Le premier, c'est un tir en rafale, c'est-à-dire que quand tu appuies sur ZL puis sur ZR, bah, tu vas tirer trois coups de fusil à pompe d'un coup. Et l'autre, que tu peux changer à tout moment si tu as pris les deux, c'est un tir explosif. Donc là, pareil, tu maintiens ZL et quand tu appuies sur ZR, bah, la mission de fusil à pompe que tu envoies, elle est explosive. Tout bêtement. Et donc une fois que tu as débloqué ce truc-là, tu peux utiliser tes points d'amélioration d'armes pour aller débloquer des compétences, enfin des trucs supplémentaires sur ces armes-là. Je reprends l'exemple du fusil à pompe. Le tir explosif, il a un temps de recharge qui est relativement long au départ, et donc tu peux accélérer ce temps de recharge. La mitraillette, la grosse Gatling du jeu, elle a un truc assez monstrueux, c'est qu'elle a des munitions améliorées à l'uranium, un truc comme ça, qui fait que les munitions passent au travers des démons. Donc en gros, si tu arrives à commencer à aligner les démons, quand tu donnes un coup de Gatling, en fait, bah, ils prennent tous les dégâts.
Ça me fait penser au fusil à plasma de Metroid.
Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce genre d'amélioration-là. Donc t'imagines que si tu débloques... Enfin, moi, pour la grosse mitraillette, je m'en sers quand même assez souvent, donc j'ai débloqué deux améliorations. Il y en a une, c'est la tourelle. Alors la tourelle, en fait, ça te permet de doubler la cadence de l'arme. C'est-à-dire que par défaut, la Gatling, elle se met à tourner un peu lentement, puis elle a smat. Et bien là, tu te retrouves avec... C'est ça. Tu te retrouves avec deux Gatling qui bourrinent deux fois plus. Et quant à ça, plus les munitions à l'uranium qui passent à travers les démons, je te garantis qu'il y en a deux ou trois, ils font beaucoup moins les malins. Hein. Ça commence à faire très 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 mal aux fesses. Alors après, ces points d'amélioration d'armes, ce qui est bien, c'est que t'en gagnes super régulièrement. C'est-à-dire que là, le jeu te récompense vraiment généreusement. En gros, en fonction de tout ce que tu tues dans une mission, t'as 5 points d'amélioration d'armes à récupérer. Pour te donner une idée, les munitions avec les balles traverses, enfin les balles perçantes pour la mitraillette, ça coûte 6 points d'amélioration d'armes. Et c'est les améliorations les plus chères coûtent 6 points. C'est-à-dire qu'en général, ça coûte 1 point, 2 points, 3 points. Les plus chères coûtent 5 ou 6 points. Donc ça permet quand même d'avoir un certain équilibre, sachant que t'en as 5 par mission d'office.
Juste sur les kills, c'est ça ?
Juste sur les kills et les arènes. Okay. Sachant que t'es pas obligé d'aller jusqu'à 5. C'est-à-dire que si tu... Quand tu découvres des zones secrètes, tu as des points d'amélioration d'armes immédiatement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est en fonction du nombre de kills que tu fais sur la carte que tu as le reste. En général, moi, quand je termine une mission, je termine souvent à 4,5 ou 3,5.
Ok.
Mais rarement à 5 points d'amélioration d'armes. Il y a une ou deux missions, je les ai finies à 5 points parce que je pense que j'ai vraiment défoncé tous les ennemis du niveau.
perso, je me fixe sur les objectifs un peu débiles que t'as, genre bousiller deux mecs avec une seule grenade, des choses comme ça.
Voilà, qui font aussi gagner tes armes, effectivement, ça augmente aussi le niveau de tes armes quand t'as amélioré une arme au maximum et que t'as ramassé toutes les améliorations possibles pour chaque module, t'as effectivement un objectif débile. Je crois que le fusil, le double shotgun, c'est abattre plusieurs démons avec une seule balle, un seul tir. Ce qui est super facile à faire parce que le double shotgun, il a vraiment
un gros rayon.
Mais du coup, quand on a abattu 30, bah, tu gagnes l'amélioration ultime du double shotgun qui fait que tu recharges 3 fois plus vite. Enfin, ça devient la sulfateuse shotgun, en fait. Tu commences à bien à se mater, mais bien correctement. Donc ça, c'est les points d'amélioration d'armes. Ensuite, t'as les points d'amélioration de l'armure. Donc l'armure que tu portes, le costume du Doomgi. Alors, contrairement à la croyance populaire, tu n'es pas à poil en train de battre des démons, même si j'aimerais beaucoup qu'il y ait un mode « tuer tout nu ». Ce serait vachement intéressant.
Même pas en rêve, je cherche sur le net.
Attends, on n'a pas les modes pour Skyrim sur Switch, faut bien qu'on compense.
Ouais.
Et donc, les améliorations d'armes, il faut aller... en gros, tu vas aller... tu trouves un soldat mort, et tu vas aller arracher son...
clé USB.
Sa espèce de, ouais, voilà, une espèce de clé USB qu'il y a sur son armure, et ça te permet d'avoir un point d'amélioration d'armure. Les points d'amélioration d'armure, moi j'ai pas trouvé ça foufou parce que ça te permet par exemple d'avoir un radar sur la carte, sauf que la carte elle est quasiment inutilisable, donc puis elle est pas très utile.
Perso, j'ai utilisé celui qui te permet, alors avec mon sens de l'orientation magnifique, qui fait une légère vibration quand t'es à proximité d'un secret.
Ouais, il y a ça. T'as l'amélioration de ton équipement. Parce que tu ramasses... T'as une grenade, en fait, qui se régénère au bout d'un certain temps, donc tu peux la faire se régénérer plus vite. Au bout d'un moment, tu gagnes une grenade à siphon. J'ai gagné un autre truc aussi, j'ai gagné un leurre. C'est-à-dire que dans l'équipement de l'armure, je peux envoyer un leurre, donc un Doomgi.
À la Total Recall.
Voilà, c'est ça, la Total Recall, un Doomgi tout mou, qui pointe juste un fusil, qui tire pas. Et bon, il y a quelques démons qui sont attirés par lui, enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des démons qui n'ont rien à foutre du leurre. Ça les...
Ils sont pas cons.
Si, mais ils sont débiles. C'est un peu le principe du jeu. Et la dernière amélioration intéressante, enfin en réalité la seule intéressante, c'est l'espèce de boule d'énergie qu'on débloque. Alors soit c'est le scénario qui t'amène à les débloquer, soit il faut les trouver dans les niveaux, ce qui n'est pas évident du tout. Et en fait, ça, c'est la boule d'énergie, ça te permet d'améliorer soit la quantité de santé que tu as, la quantité d'armure que tu as, la quantité de munitions que tu as. Il faut voir un truc, c'est que tu n'as pas de rechargement d'armes, ce qui est très bizarre. Tu ne recharges jamais tes armes, en fait. Il n'y a pas de bouton pour recharger. Tu tires en continu, il n'y a pas de...
vraiment à l'ancienne.
Ouais. C'est vraiment à l'ancienne là-dessus. C'est très bizarre au départ. Moi j'avais des réflexes à la compte, j'utilisais la mitraillette de base, et à chaque fois j'avais le réflexe, je faisais une rafale, et je cherchais en gros le bouton pour recharger, quoi.
Est-ce que tu as utilisé la super option qui te permet de modifier l'emplacement de l'arme sur l'écran ?
Oui, c'est très perturbant.
C'est génial.
C'est énorme, ça te remet le fusil en plein milieu de l'écran.
Centré, vraiment comme dans l'original.
Sauf que c'est super perturbant, en fait. Enfin, moi, j'arrive pas à jouer comme ça, c'est super
bizarre. Ça fait bizarre, mais...
Tu vois mieux ce qui se passe, en plus, donc...
Ça aurait été mieux si ça pixelisait l'image.
Ouais, ça aurait été énorme. Ouais. Que ça te mette la tronche du mec en bas avec l'image pixelisée, moi, j'aurais été... Ouais, non, je suis d'accord. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà, moi, j'ai cherché, vous savez, sur la mitraillette, j'avais le réflexe de... Bah comme n'importe quel FPS récent, c'est-à-dire finalement, tu tires une rafale, clac, tu recharges, quoi. Tu te planques pour recharger éventuellement, mais voilà. Mais non, pas du tout, hein. C'est vraiment, là, tu peux asmater en continu. Tant qu'il y en a, ça envoie, et si t'arrives à en récupérer entre deux, c'est-à-dire tu recules, tu récupères des munitions, c'est parti, quoi.
Et y a pas de surchauffe, quoi que ce soit, hein.
Si, sur la grosse sulfateuse en mode tourelle, il y a de la surchauffe.
Comment tu me spoil ?
Bon, t'inquiète pas, tu le découvriras très vite. Puis la grosse sulfateuse, moi j'aime bien, mais je sais qu'il y a peu de gens qui s'en servent. C'est un peu comme le... Merde, comment il s'appelle ? Le fusil Gauss. Il est bien, le fusil Gauss, mais c'est compliqué à s'en servir. Enfin, voilà. Donc, bref, Doom, c'est le jeu qui favorise la mobilité, qui favorise la créativité, parce qu'il faut, l'improvisation, et en même temps qui est réglé comme du papier à musique, et où finalement les arènes s'enchaînent super facilement. Enfin, c'est vraiment un gameplay super agréable, et comme on disait la semaine dernière, avec Doom et Doom 2, finalement il y a relativement peu d'ennemis, on en a évoqué quelques-uns, il y a les zombies, les diablotins, enfin les imps, les summoners, les hellbarons, voilà, il y a quelques ennemis, ils ont tous un comportement finalement très simple, c'est-à-dire que les diablotins, pas forcément tous, les diablotins vont avoir tendance à sauter autour de toi et à t'envoyer des boules de feu, voilà, les cacodémons, ils sont très très statiques et ils envoient des grosses boules de feu bien chiantes. Les cavaliers de l'enfer vont avoir tendance à te sauter dessus et à te courir après pour te coller des patates. Non, ils ont tous un comportement différent, mais qui finalement est très stéréotypé, très simple à appréhender. Et au final, on s'amuse, quoi. On s'amuse parce qu'on est vraiment obligé de prioriser, de faire attention. Et voilà, les Glory Kills, ça rajoute un petit côté pimenté au truc, parce qu'effectivement, tu peux prendre des dégâts, tu peux te permettre d'aller faire des trucs un peu acrobatiques, tu peux te permettre de faire des erreurs, mais pas trop. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre, le juste équilibre pour arriver à jouer au jeu. Et je trouve que ça passe très 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 bien. Malgré quelques trucs un peu con-con de temps en temps.
Tu penses à quoi ?
Je pense à... Il y a une ou deux arènes où, en fait, je trouve qu'il y a des trucs qui, au premier coup d'œil, n'étaient pas super clairs. Et, c'est un truc con, mais tu récupères le BFG à peu près au milieu du jeu. Ceci n'est pas un spoiler, ce jeu a un
nom. Oh mon dieu, et il y a Bowser à la fin de Mario.
Non mais, voilà, tu récupères le BFG à peu près au milieu du jeu. Et à partir du moment où tu as le BFG, dans quasiment toutes les arènes, tu vas avoir des munitions de BFG, mais sauf qu'elles sont... Enfin, c'est une espèce de petite boule verte, en fait, qui traîne quelque part dans l'arène. Et je trouve que c'est pas super clair... Enfin, c'est pas super bien indiqué. Quand tu la récupères, une fois sur deux, en fait, t'as déjà tes munitions de BFG au max, parce qu'en fait, le BFG, tu t'en sers pas tellement. Je trouve que, voilà, par exemple, le BFG est plutôt mal exploité. Sauf que la tronçonneuse est très bien exploitée. C'est-à-dire que la tronçonneuse, dans le Doom original, faisait pas grand-chose de plus qu'être un truc un peu rigolo.
Oui, là, c'est un vrai élément de gameplay.
Là, c'est un vrai élément de gameplay, comme les Glory Kills. C'est vraiment un vrai, vrai élément de gameplay. Le BFG, ça te permet de te débarrasser d'un gros, gros monstre dans une arène, et c'est bien pratique. Mais comme dans 90% des cas, en réalité, tu sais te débarrasser du gros, gros monstre normalement.
Classiquement, ouais.
Ouais, voilà. Moi, je me suis retrouvé des fois à me dire « Ah oui, merde, j'avais des munitions de BFG, c'est con. »
Ok.
Je trouve que le BFG est très mal exploité. Et voilà, c'est vraiment un des trucs. Et je trouve que les munitions de BFG sont pas assez clairement indiquées. Je sais pas, ça devrait être une énorme caisse ou j'en sais rien. Ouais. Enfin, c'est un peu.
Du coup, elles sont à part des munitions classiques, on va dire.
Ouais, tu peux pas les récupérer sur les ennemis ou avec la tronçonneuse. T'es vraiment obligé de. C'est vraiment une boule verte qui clignote okay. Quelque part. Sachant que moi, j'ai pris les améliorations de transport de munitions, c'est-à-dire que. Quand tu démarres, je crois que tu peux avoir maximum 20 cartouches de shotgun, maximum 100 balles de mitraillette, c'est quand même assez limité. J'en suis à la 2 ou 3ème amélioration de munitions, donc là maintenant j'ai une tronçonneuse sur laquelle il y a 7 réserves d'essence.
C'est bon ça.
Donc je peux tronçonner un Hellbaron, donc les très très gros ennemis cornus, en un seul coup. Ça consomme toute la tronçonneuse, mais je peux le faire.
Ok. Hâte de voir l'animation pour le coup.
En fait, en gros, il coupe une corde, puis il coupe le milieu du démon. C'est bien. Ça fait plaisir. C'est quand même vachement sympa. Et en fait, j'ai l'impression que le BFG, de toute façon, t'as que 3 munitions maximum. Parce que, alors, comme j'ai 3 améliorations de munitions, je sais pas s'il y en a une par défaut ou si j'en ai déjà 3. Enfin, j'en sais rien. Ah. J'ai pas l'impression que ça puisse s'améliorer. Et je te dis, le truc, c'est que dans 80% des cas, quand je veux ramasser des munitions de BFG, mon truc est déjà plein. Donc je sais pas, c'est...
T'as une petite impression de gâchis et ça t'énerve.
Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a raté. Alors après, je me dis que c'est peut-être simplement le niveau de difficulté qui fait ça, c'est-à-dire qu'en ultra nightmare, en réalité, c'est peut-être vital de commencer à apprendre à se servir du BFG correctement. Tout bêtement. C'est peut-être aussi ça, hein, c'est... Parce que là, dans le niveau de difficulté, je sais pas si tu l'as commencé en quoi, en ultra-violence ou en...
Non, normal, pareil. Fais-moi mal.
Fais-moi mal. Parce que le jeu, en fait, devient beaucoup... Enfin, alors, c'est pas un jeu dans lequel... C'est pas un RPG, quoi. C'est pas ton avatar qui progresse, même si, effectivement, le fait d'avoir des points d'amélioration d'armes et d'armure et tout ça, ça aide. On va être très clair, c'est vraiment... Le fait de te dire à un moment, bah tiens, je vais peut-être améliorer mon armure et avoir 50 d'armure par défaut, bah oui, ça aide beaucoup. Mais c'est quand même toi qui t'améliores, parce que de toute façon, comme on te balance des monstres de plus en plus balèzes sur la gueule, et surtout de plus en plus nombreux, et avec des combinaisons de plus en plus compliquées à gérer, parce que ouais. C'est surtout ça, tu t'améliores énormément au niveau skill. Il y a la courbe de progression du jeu est plutôt pas mal pour un jeu dans lequel il y a très peu de... Je sais pas, il doit y avoir 7 ou 8 ennemis différents au total, hein, pas beaucoup plus. Il y a quelques variantes, mais il n'y a pas... Quelques boss.
Ouais.
Mais il n'y a pas tellement d'ennemis que ça. Enfin, je sais pas, t'as beaucoup plus de variétés d'ennemis dans un Bayonetta, par exemple. T'as vraiment énormément de types d'ennemis différents. Alors que là, t'en as, ouais, 7-8 maximum. Peut-être 9 si tu comptes le boss de fin, mais... Et finalement, pour un jeu comme ça, en fait, le simple fait d'aller faire une combinaison dans laquelle tu vas avoir 2 invocatrices dans une arène, plus un Elbaron, plus 3 cacodémons, plus 12 imps, plus machin, dans un certain ordre, bah, tu vas être obligé de t'adapter de cette manière-là. Je trouve que de ce point de vue-là, le gameplay est vraiment intelligemment pensé. Et le côté. Et du coup, on a l'impression. Enfin, on pourrait avoir l'impression que c'est très répétitif. C'est un peu le cas quand même. Faut être un peu honnête. Mais pas tant que ça, parce que toutes les arènes finalement sont différentes, simplement en faisant ces espèces de mélanges de différents démons qui apparaissent pas dans le même ordre, pas de la même manière, et que en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, de l'arme que tu es en train d'utiliser, du bonus que tu es en train d'utiliser, ainsi de suite, va falloir que tu changes parfois complètement de stratégie au milieu, d'improviser complètement autre chose. Donc je trouve que là-dessus c'est plutôt une grosse réussite.
Dire que tout ça aurait pu être changé avec une loot box.
T'imagines, tu fais un glory kill et là tu débloques une loot box. Une loot box pour avoir les munitions, de la vie ou un truc cosmétique.
Mais ce serait très bien d'avoir un truc cosmétique. Ce serait
cosmétique,
drôlement...
j'ai pas de problème. Oui.
Cosmétique, moi pourquoi pas. Après tout, si tu pouvais peindre ta mitraillette en rose, je pense qu'il y a des gens qui le feraient. Ce serait tellement chouki.
Ouais. Oui. J'ai un souvenir ému de la forge de Fire Emblem sur GameCube où tu peux avoir des épées roses, rouges, vertes. La lame, hein, Charles.
Effectivement, il y a moyen de faire des trucs un peu marrons.
T'as un charme à atomiser les boss avec une épée rose.
Mais je pense que le BFG... Moi, le BFG, il fait des rayons verts. S'il pouvait faire des rayons roses fluo, sincèrement, je...
Oh, tu tires un arc-en-ciel.
Oh, ouais, ce serait tellement nice. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai retrouvé mon... Puisque j'ai reçu mon post Miiverse aujourd'hui, j'ai retrouvé un post que j'avais fait sur Splinter Cell Blacklist. Alors sur Splinter Cell Blacklist, tu peux changer la couleur des lunettes de Sam Fisher, parce que par défaut elles sont vertes. Et je crois que la plus chère, c'est des lunettes roses. Et à part être super discret à la Gay Pride, je vois pas ce que ça fait en fait. Ça fait rien du tout. C'est juste purement décoratif. Tu peux avoir des lunettes roses et c'est tout.
Mais c'est bien, ça pète pas le jeu et c'est drôle.
Oui, voilà, mais tant que ça pète pas le jeu, mais pas de problème. Là, je sais pas, sur Doom, il y a quand même quelques... Si, il y a un vrai défaut quand même de game design, enfin, je trouve... Mecton, je sais pas où t'en es exactement, toi, dans le jeu.
Je suis, ouais, je dirais au tiers. D'après ce que tu me racontes, je sens que je suis pas trop loin du BFG.
T'es allé en enfer ?
Non, je suis juste avant.
T'es juste avant l'enfer ?
Ouais.
T'as
pas été
faire le premier niveau en enfer ?
Non.
Ah oui, donc non, t'es un quart du jeu, hein. À peine.
Je suis une merde.
Non, mais en fait, t'as la toute première mission, enfin, t'as la mission d'introduction, en gros, puis t'as la deuxième mission qui est l'UAC, puis ensuite, tu vas en enfer.
La troisième ?
Troisième ou quatrième mission ?
Non, je pensais être à la troisième. Bref, allons-y.
C'est peut-être la quatrième mission. Il y a peut-être moyen que ce soit ça. Si, t'as la fonderie, puis ensuite, t'as l'enfer.
Ouais, je suis après la fonderie. Enfin, il me semble que je suis à la fin de la fonderie.
Eh ben voilà, à la fin de la fonderie, tu vas aller en enfer juste derrière.
Ok.
Assez rapidement.
C'est méchant, ce que tu me dis.
Écoute, au bout d'un moment, voilà. Hein. Je te rappelle que le scénario de Doom est très simple. Hein. Tu es le Doomguy et tu vas semer la désolation parmi les démons innocents en enfer.
Ouais.
Ce n'est pas toi qui est enfermé avec eux, c'est eux qui sont enfermés avec toi.
Je te garantis que vu la pâtée que tu leur mets de temps en temps,
il y a pas de friteuse dans
le jeu. Tu prends beaucoup de branlées. C'est un jeu dans lequel tu meurs assez souvent. Non mais c'est vrai, tu meurs en boucle assez souvent jusqu'à ce que tu arrives à bien débrouiller. Des fois, ça tient aussi un petit peu à de la chance. Hein. Des fois,
tu sais que je suis mort à la première arène comme un gros caca.
Ah non, je savais pas. Voilà. C'est intéressant.
Sache-le.
Mais non, mais moi je comprends parce qu'en fait, il y a des fois, t'as vraiment juste pas de bol. Hein. Mm. Au départ, moi j'avais pas compris qu'il fallait
skill.
Pas de skill, oui, aussi. Ou les deux. Ou les deux, faut le dire. Mais moi au départ, j'avais pas compris qu'il fallait être super mobile tout le temps. Je m'étais dit, ben voilà,
c'est ça, c'est
classique,
ça.
Tu façon Gears of War, finalement, tu te planques, machin.
Je me pose, j'allume. Non.
Non, ça marche pas.
En fait, tu poses, il t'allume.
C'est exactement ça. Et tu as un tooltip dans un écran de chargement qui te le dit.
Oui, il y a un truc qui te dit l'enfer punit
les indolents.
Bouger. Bouger tout le temps. Et en fait, si tu fais ça, tu bouges tout le temps et de la bonne manière, effectivement, t'es beaucoup plus difficile à tuer et tu fais une quantité de dégâts monstrueuse. Alors, c'est moins facile pour viser, mais du coup, comme t'as pas fondamentalement intérêt à bien viser dans certains cas, parce que, par exemple, tout bête, mais les diablotins, par exemple, si t'as le double shotgun, ben en fait, si tu vises correctement, tu vises genre la tête, le torse, en gros, tu vas les tuer d'un seul coup, donc du coup, tu pourras pas faire de glory kills. Donc, il y a des fois où t'as intérêt pratiquement à pas bien viser. C'est-à-dire à toucher une jambe, un bras, un membre, un truc, de sorte à te garantir un glory kills rapidement pour pouvoir recharger ta vie. Ce qui fait que c'est un bon jeu pour les consoleux handicapés qui jouent pas à clavier-souris. Je pense que clavier-souris, ça, c'est peut-être moins facile, en réalité. D'un point de vue, je veux dire, déroulement global de l'arène.
Oui.
C'est plus facile d'éliminer les monstres rapidement, probablement, et ça doit être plus difficile d'obtenir les bons glory kills au bon moment.
Ou tu montes le niveau de difficulté plus facilement.
Je sais pas. Je trouve qu'il est plutôt bien équilibré là-dessus, d'ailleurs, parce que à jouer à la manette, ça passe super bien, hein.
Enfin, oui. Moi, je... Alors, perso, la visée au gyro me manque un peu.
Mais pas de visée au gyro ?
Non.
Non, il n'y a pas de visée au gyro, et c'est bien dommage.
C'est dommage. Parce que pour l'ajustement, c'est souvent nickel, quoi.
Oui.
Ah, et ça, on est d'accord. Hein.
Ouais.
C'est vraiment... du coup, quand on est sur les spécificités de la version Switch, effectivement, pas de visée au gyro, c'est un peu dommage.
Control limité.
En gros, ça permet d'aller remplacer le coup de coude ou le glory kills, donc le clic droit sur le stick de droite. Enfin, le clic droit. Mais qui doit être un clic droit d'ailleurs sur la version PC.
Je sais pas du tout.
C'est pour ça que ça me. Mais je crois que c'est un clic droit sur la version PC. Bref, ça remplace le coup de coude. C'est-à-dire, tu donnes un coup de Joy-Con droit.
Tu joues ta manette, ouais.
Ouais, voilà, ça donne le coup. Je sais pas ce que tu penses des contrôles par défaut, moi j'ai pas trouvé ça foufou.
Ils me vont, il faut passer un peu de temps pour trouver la sensibilité qui te va bien. Alors, pour être truc surprenant, de base, par défaut, la sensibilité horizontale et verticale sont pas calées pareil.
Moi ça m'a pas choqué en jouant, mais.
Je me suis dit pourquoi, j'ai fait mes réglages et au final je suis revenu sur un truc avec un petit décalage entre les deux et ça passe bien.
Ouais, ça, j'ai pas tellement. J'ai pas trouvé ça super choquant. J'ai plutôt trouvé ça. Enfin, ça allait, quoi.
Mm.
Par contre, effectivement, moi, ce que je trouve gênant, c'est. Alors, pour faire les contrôles en deux secondes. Donc, le bouton ZL, ça sert à activer la fonction seconde de l'arme. ZR, c'est pour tirer. R, ça active la roue des armes. Donc, tu maintiens R, et en fait, après, avec le stick droit, tu peux choisir ton arme rapidement. Et ça fait une espèce de pseudo
pause time,
en fait, ouais. Bullet time, c'est-à-dire que ça n'arrête, ça met pas complètement à pause le jeu, mais ça le ralentit le temps que tu choisisses ton arme en fait. Qui est plutôt un système bien foutu d'ailleurs, parce que du coup tu peux choisir assez rapidement ton arme une fois que t'as à peu près l'emplacement des armes en tête.
Ouais, et tu gardes le rythme aussi, c'est bien.
Et ça garde le rythme, ça casse pas le rythme du jeu parce que ça l'arrête pas complètement.
Coucou Skyrim.
Voilà. Le bouton L, ça sert à activer l'arme secondaire, en fait, la fonction secondaire de ton armure, donc le leurre, la grenade à siphon, et ainsi de suite, en fonction de ce qui est sélectionné. Sur la croix gauche et droite, en fait, tu as la sélection, justement, de l'arme secondaire, du truc que tu vas avoir sur le bouton L. Le bouton du haut te permet de changer le module de ton arme, si tu as les deux modules, donc par exemple la rafale ou le tir explosif sur le fusil à pompe. Le bouton du bas sert à rien, je crois.
Ça me dit rien.
Une connerie, mais j'ai l'impression qu'il servait à rien. Évidemment, les deux sticks pour se diriger et tirer et bouger la tête classiquement. Et après, les boutons du pad sont assez simples. C'est-à-dire B, c'est pour sauter. A, c'est pour se baisser. Ce qui ne sert à peu près à rien.
À rien du tout, c'est le frein de Mario Kart.
C'est ça. J'ai pas compris. Alors si, pour atteindre certaines zones secrètes, t'es obligé de te baisser.
Cool. Ah, c'est ça!
Bah oui, mais. C'est-à-dire que. Voilà, pourquoi un bouton pour ça? pourquoi. Et ensuite, Y, c'est le raccourci pour la tronçonneuse, et X, c'est le raccourci pour le BFG.
D'accord.
J'ai mis je sais pas combien de temps à comprendre que X était le raccourci pour le BFG. Moi, je cherchais dans la roue des armes le BFG, et j'ai jamais trouvé. Je me suis dit, bon, bah, je sais pas, ça était à usage unique. J'avais pas compris.
Et en fait, le bouton plus met en pause.
Ah oui.
C'est ouf.
Ah, c'est complètement. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs pas du tout dans d'autres jeux. Hein. C'est vraiment inédit. Mm. Là, il y a un gros gros travail de Panic Button pour l'intégration du bouton plus pour mettre la pause. Mm. Pareil, moins c'est la carte. Personne n'y avait jamais pensé.
Ouais.
C'est quand même assez ouf.
C'est incroyable.
Je pense que là-dessus, les mecs ont vraiment une grosse longueur d'avance sur tout le monde. Et du coup, enfin, on est un truc plus sérieux. Moi, ce qui m'a un peu gêné avec la config de bouton par défaut, sans la changer toutefois, j'ai fait quasiment toute la partie comme ça parce que j'ai essayé les autres configs et je les trouvais pas fofolles non plus. Le glory kill sur le clic du stick droit, je trouve pas ça ouf.
J'ai un peu de mal avec ça aussi.
Et un truc plus gênant, je trouve, c'est que tu peux pas te diriger en sautant. Puisque comme tu sautes sur le bouton B et que tu peux te diriger avec le stick de droit, bah c'est là où...
D'accord, c'est une contrainte de contrôle qui te... C'est ça.
Okay. Ouais, bah, c'est-à-dire que le saut, je vois pas où je le mettrais, en fait, pour que ce soit faisable, à part sur le clic gauche, éventuellement, mais alors, putain, ce serait bien galère à faire.
Une gâchette, ça aurait été merdique.
Ouais, j'en sais rien. Franchement, je trouve pas ça ouf, parce que le fait de pas pouvoir contrôler ta direction pendant le saut, c'est un peu dommage.
Après, est-ce que tu as eu beaucoup à utiliser le saut pendant les phases de combat?
Oui,
beaucoup. D'accord.
Ouais, okay, okay. J'ai beaucoup tendance. Mais du coup, j'ai tendance plutôt à me caler dans une direction, à sauter ou à faire un double saut. Et en fait, comme t'as un petit moment de flottement, à reprendre le stick très rapidement pour aller ajuster éventuellement. Mais je trouve pas ça ouf. Maintenant, je sais pas si on aurait pu faire mieux, pour être parfaitement honnête.
Je sais pas, ouais.
Parce que sur PC, en fait, tu l'aurais sur la barre espace. Donc
la barre d'espace, tu l'as sous le pouce. Ouais,
ouais, voilà. Et en même temps, la grenade, tu l'aurais eu. Enfin, j'aurais peut-être viré la grenade, tu vois, par exemple.
Ouais. Ouais.
Je m'en sers moins souvent. Je sais pas, j'ai pas trouvé de... Donc ouais, je trouve que la config de touche, alors c'est la même que sur PS4, sur Xbox One et tout ça, mais je la trouve pas ouf. Ça reste ultra jouable, hein. J'ai pas de soucis, on peut parfaitement finir le jeu avec ça. J'ai essayé 2-3 autres configs et je suis revenu finalement à celle par défaut parce que ça j'avais pas envie de chercher, j'avais pas envie de me faire chier, enfin, j'avais envie de jouer au truc.
De t'apprendre tout ce que tu as appris.
C'est exactement ça, puis une fois que t'es à peu près dans le mood, ça passe bien. Mais voilà. Et donc cette version Switch, alors elle ne tourne pas en 60 fps. Elle tourne en 30 fps capé.
Tourne-t-elle en 30?
La plupart du temps, oui. Même dans les arènes assez chargées, moi il y a une seule arène où j'ai vraiment senti un énorme drop de framerate, c'est-à-dire que j'ai dû finir en 5 images secondes, c'était vraiment le slideshow.
Ah, carrément, d'accord.
Ah ouais, non, ouais. Il y en a une où c'était vraiment... c'est dommage que j'enregistrais pas à ce moment-là sur la carte de capture, parce que c'était vraiment...
Ça a duré combien de temps?
J'en sais rien, c'est très compliqué, les arènes, t'as l'impression que ça dure très longtemps, alors qu'en réalité ça dure 30 secondes.
Le temps se dilate, ouais.
Ouais, c'est un peu ça. Tu rigoles, mais quand j'ai fait le petit live juste d'une heure là, quand j'ai fait le montage, hein, je me suis dit, bon, bah en fait, je pourrais quasiment juste laisser les arènes en entier, ça suffirait, mais en fait, le truc il faisait genre 10 minutes.
Ouais, bah ouais.
C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est très long parce que tu fais énormément de choses en très peu de temps, t'es obligé d'être très concentré, mais en fait, c'est ultra condensé, ça dure pas très longtemps. Bref, donc là, je sais pas, je saurais pas te dire, mais pendant. Il y a un moment où il y a eu deux invocatrices, et à partir du moment où la deuxième est arrivée, le jeu s'est mis à ramer, mais alors... Et dès que j'en ai éliminé une, en fait, ça allait beaucoup mieux, donc
okay.
Je sais pas si c'est les effets de lumière de l'invocatrice, ou si c'est... le jeu était en train de faire quelque chose en arrière-plan, ou la console se reconnectait, enfin j'en sais rien. Mais c'était vraiment... c'est le seul moment où j'ai vraiment eu un gros ralentissement. Après, le jeu est peut-être pas tout à fait à 30 frames par seconde en permanence,
Mais
il utilise vraiment une... Enfin, c'est vraiment une résolution adaptative assez agressive. Parce que par contre, tu sens quand même quand le jeu commence à...
Il devient un peu flou.
Il est à 720p max. Et il y est vraiment pas tout le temps. C'est-à-dire que même sur les scènes très calmes, il y est pas toujours. Il y a que les scènes finalement en intérieur où ça monte à 720p. Dans les arènes, clairement, la résolution drop assez rapidement. Alors je sais pas si toi ça t'a choqué les 30 images
secondes. Non, franchement j'ai trouvé ça très confortable. les 30 images, hein, je te parle pas de drop.
Ah, tout à fait.
Ouais, mais j'ai trouvé ça. Ouais, voilà, c'est bien. Ça reste impressionnant, on parlera peut-être technique un peu après. Et ouais, les changements de résolution, je les ai pas sentis plus que ça. De ce que j'ai joué, là où j'en suis rendu du jeu, j'ai pas encore eu de gros moments de frame drop. Donc ouais, gros respect pour ces bonhommes.
Les mecs de Panic Button, ils ont vraiment fait un boulot de portage qui est qui est assez sidérant parce que.
Bah le jeu démarre, t'as un effet pas un effet waouh, on arrive à être blasé aujourd'hui, mais t'as un effet ah ouais quand même.
Bah basiquement, ils ont quand même fait tourner Doom, qui est c'est pas un jeu ultra exigeant. Enfin, c'est un jeu de 2016 quoi. Mm-hmm. Ils ont quand même réussi à le faire tourner sur un truc qui est basiquement un hardware de tablette quoi.
Yep.
Et ça, tu... Enfin, je rappelle qu'entre le Doom original et la première version sur console portable, qui était la version GBA, il s'est passé 10 ans. Là, en un an, on a réussi à avoir un portage de Doom sur une console portable. Alors, ok, il tourne pas en 60 images secondes, fallait pas s'attendre à un miracle. Ok, il y a de la résolution adaptative un petit peu dans tous les sens, mais c'est le même jeu, il y a même pas de coupure dans les niveaux. C'est-à-dire que
on aurait pu
s'attendre à ce qu'il y ait, que les niveaux soient chargés par trame ou qu'il y ait un temps de chargement au milieu de certains niveaux. Non, c'est vraiment aucun problème, quoi. Oui, Rhyme, peut-être qu'ils auraient dû le faire dans Rhyme. Parce que, bon... C'est marrant parce qu'en ce moment, effectivement, je joue à Doom, qui techniquement est super impressionnant, pour de la Switch, hein, j'entends. C'est-à-dire que... qui techniquement est super impressionnant et qui est un jeu ultra nerveux, et à côté de ça, Rhyme, qui est exactement l'opposé, un jeu super calme et techniquement très décevant.
Voilà.
Madame qui rajoute, c'est nul.
Fatality.
Bah, ça suffit, oh, mauvaise foi, elle. Bon. Doom, c'est bien, voilà. Voilà, merci.
Ça, c'est vrai aussi.
Ça, c'est vrai aussi. Voilà, mais enfin, techniquement, ouais, il y a des textures qui pop, ça se voit. Il y a les assets sont, enfin, les résolutions de textures sont quand même moins bonnes, ça se voit aussi.
Et je me demande si, dans les options, on peut virer le motion blur, peut-être si on le tège.
Je pense que si tu le tèges, tu vas peut-être les sentir les 30 images secondes. C'est l'aberration chromatique qui. Alors ça, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé activer. Alors, je pense que c'est un peu pour le lulz.
Je sais pas.
Mais ça sert pas à grand chose, tu peux le virer, effectivement le jeu est peut-être un poil plus fluide, mais je suis même pas sûr en fait.
On a un jeu console où tu peux régler tes paramètres graphiques, c'est beau.
Écoute, moi je préfère qu'on le fasse à ma place, c'est plus simple, mais voilà, hein, après chacun sa merde. Le dernier truc, c'est que tu peux quand même régler le field of view, donc la largeur de vue. Par défaut c'est 90 degrés, comme sur les versions PS4 et Xbox One, et tu peux le pousser jusqu'à 110. Alors, il me semble que sur la version PS4, on peut monter jusqu'à 120. Sur PC, on peut monter jusqu'à 180. Donc ça veut dire que le champ de vision de rendu du jeu voilà, va augmenter considérablement. Donc, libre à vous. J'ai pas noté particulièrement de ralentissement quand on augmentait le FOV. On aurait pu le craindre parce qu'effectivement, tu rends... Enfin, il y a un plus de rendu, quoi. Tu passes de 90 degrés à 110 degrés, c'est-à-dire que tu as 20 degrés de plus à rendre en temps réel, on aurait pu craindre que ça rame. Non, ça rame pas plus que ça. Alors, en mode portable, ce qui je trouve un tout petit peu décevant, à titre personnel, c'est que finalement, il tourne, entre guillemets, aussi mal, ou plutôt aussi bien, en mode portable qu'en mode dock. T'as pas de véritable amélioration en mode dock.
Tu sais quelle amélioration je vois en mode dock ?
Vas-y.
Le son.
Oui.
Ah, le sound design de ce jeu, il est juste ouf.
Le sound design du jeu, ouais, c'est fou. C'est le genre de jeu. J'aime bien jouer en 5 points à beaucoup de jeux.
Ouais.
Celui-là, en stéréo avec un casque.
Ah, d'accord. Oui,
prend une grosse queue-cla dans la gueule. Hein.
Ok. Oui, je dis ça parce qu'en portable, je joue sur la Switch nature.
Ah oui, de vanille.
Voilà.
sans additifs, sans... si tu as un bon casque...
J'essaierai.
Un bon casque, le petit live que j'avais fait sur Twitch et qui est sur YouTube maintenant, moi j'avais pu y jouer, j'y jouais à mon bureau, donc je pouvais y jouer avec un casque. Quand je joue dans mon salon, je peux pas jouer avec un casque. Je suis obligé de baisser le son en général pour être en direct parce que sinon ça fait de la résonance, enfin, c'est le bordel. Donc là j'y jouais avec un casque. Là il est très très bon, le sound design. T'entends les craquements d'os, t'entends les démons qui te gueulent dans les oreilles. T'entends effectivement, c'est toujours pareil, les distinctions des ennemis sont super importantes, mais un cacodémon fait pas du tout le même bruit qu'une invocatrice, qui fait pas le même bruit qu'un Elbaron, qui fait pas le même bruit qu'un zombie, et tu les entends bien autour de toi, et donc t'es capable de dire oh, putain, il y a un gros ennemi qui va arriver à droite, et de te retourner, de balancer trois bastos avant de te rebarrer, quoi. La localisation du son est pas ouf en 5.1. Je tiens quand même à le préciser, le jeu en 5.1 fonctionne bien, mais c'est pas la folie. Je sais pas ce qu'il en est des autres versions console ou de la version PC, parce que j'ai jamais pu les essayer avec un vrai système son 5.1 bien comme il faut. Mais je sais que sur la version Switch, c'est pas foufou. Par contre, juste en stéréo, que ce soit en mode portable ou sur plus grand écran, ça passe très 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 bien. C'est vraiment super agréable à jouer.
Voilà. Je note. Et je regarde où est la prise jack sur ma console.
Mec, elle est sur le dessus.
Elle est dessus, ouais, c'est bien foutu.
Pour que tu puisses brancher tes écouteurs, même quand elle est dockée. C'est bien fait.
Dingue.
Et ça marche. C'est complètement ouf. J'aimerais vous amener sur un terrain un petit peu plus glissant pour conclure cette émission, parce qu'il commence quand même à se faire tard. Parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Panic Button, là, ils ont quand même... Je pense qu'ils se sont fait une petite réputation, du coup, parce que là, ils ont fait un portage qui est quand même super ambitieux.
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, ces gens-là ?
Rocket League.
Oh putain, d'accord. Okay,
sur Switch.
Okay.
Sur Switch, hein.
Ah, ok.
C'est pas la version d'origine, mais ils ont à leur actif, ils ont quand même un portage de Rocket League qui est en 60 images secondes sur Switch. Mm-hmm. Ils ont un portage de Doom qui était quand même un truc qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a juste 6 mois avant que ce soit annoncé. On avait vu que Skyrim c'était bon, mais enfin là je sais pas, moi ça m'a quand même bien scotché. Je veux dire, c'est pas parfait comme version, mais t'as vraiment les sensations qui sont là, le jeu marche.
En effet, ah ouais quand même quoi.
C'est pas mal quoi. Enfin mm-hmm. Les mecs se sont quand même sortis les doigts. J'ai l'impression qu'ils ont un bel avenir devant eux. Est-ce que vous pensez qu'on aura d'autres portages super ambitieux de ce type-là ? Alors on sait qu'il y a Wolfenstein 2 qui est prévu, mais qui tourne sur le même moteur que Doom, donc peut-être que l'effort de portage va être un peu moindre. Mm-hmm. Sans vouloir amoindrir les efforts des développeurs, hein, bien sûr, mais...
Ou que le jeu va prendre plus cher, l'avenir nous le dira.
Il va tourner en 240p, donc ça va nous rappeler des bons souvenirs. Mais est-ce que vous pensez qu'on va avoir ce genre de portage super ambitieux dans l'avenir ? Je sais pas, est-ce qu'on pourra imaginer d'avoir des jeux type, y a rien qui me vient en tête, la Prey, par exemple, qui était sorti il y a pas si longtemps que ça, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être porté sur Switch ? Est-ce que vous pensez que les mecs de Panic Button pourraient s'attaquer à des moteurs de jeu peut-être plus exigeants, plus compliqués à faire tourner? Je pense au Frostbite Engine qui n'est pas encore complètement porté sur...
Ah, c'est chez EA, ça va être compliqué ça.
Bah ça dépend, ils pourront peut-être le mettre en lootbox.
Ah, GG.
Ton moteur en lootbox, et là tu tombes sur l'ID Tech 1.
Nice, mais tu vas pouvoir jouer à Doom. C'est bon. Donc est-ce que vous pensez que ça va y avoir d'autres portages un petit peu ambitieux, ou est-ce que vous pensez que là finalement Panic Button, en fait, ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient de la machine et en réalité il n'y aura personne qui arrivera à faire mieux?
C'est bien compliqué tout ça.
C'est dur à dire quand on n'est pas développeur et qu'on n'a pas la machine sous la main, je trouve.
Je sais pas comment ça a été foutu, ouais. Je reprends
un exemple tout bête qui va vous parler forcément. Sur GameCube, on a eu Rogue Squadron qui était sorti avec la machine. Je crois qu'il n'y a aucun jeu qui techniquement l'a dépassé. Il avait des effets de ouf dans tous les sens, du bump map à gogo, enfin c'était la folie complète, le truc était ouf. Et moi je suis désolé, la première fois que j'ai vu Rogue Squadron, je me suis dit putain, mais c'est que la première génération de jeux, si les suivants s'améliorent, ça va être la folie. Et finalement, ça n'est jamais arrivé. Je crois qu'il n'y a aucun jeu qui techniquement a dépassé Rogue Squadron. Peut-être éventuellement Twilight Princess, où il y avait quand même des effets un peu ouf. Sur la fin de vie de la GameCube en plus, donc t'avais quand même un truc qui était costaud. Mais voilà, est-ce que vous pensez que, je sais pas, il peut y avoir des portages un peu de l'impossible, ou est-ce qu'il y a des portages que vous aimeriez bien voir? Vous disiez peut-être avant Doom, ça tournera jamais, et puis maintenant vous vous dites, non, peut-être qu'il y a moyen, quoi.
Je réfléchis, alors tout en pensant qu'il faut que ça soit un jeu pas trop gros, vu que comme d'hab, on va se faire avoine sur le stockage. Oui, quelque chose, on n'a pas parlé du multi. Qui est en...
On s'en fout.
En DLC, c'est juste, voilà, si vous voulez lancer le jeu sans vous prendre la tête avec un menu qui vous propose la mise à jour à chaque fois, Vous passez en mode avion.
Voilà, ça marche très bien. En plus, la tristesse du truc, c'est qu'effectivement, le multi de Doom, une parenthèse, je profite aussi, parce qu'effectivement... Donc le multi de Doom, je pensais que ce serait une espèce d'application à part que tu pourrais lancer que quand t'as la cartouche du jeu, mais en fait non, il fait partie de la mise à jour Day One, et c'est un peu dommage, parce que tout le monde s'en fout. Mais au final, tu peux parfaitement le désinstaller, l'intégralité du jeu solo est sur la cartouche, il suffit juste effectivement de le lancer en mode avion. Et ça marche. Donc faut en profiter. Du coup, Antix, tu peux pas d'avis sur la question ou...
Pour un jeu, je t'avoue que pour les gros jeux comme ça, j'en ai pas qui me viendraient en tête.
Final Fantasy XV.
Ouais. Bah, ça fait partie des trucs. Moi, j'aurais plus vu Nier Automata.
On s'en passera.
Nier Automata, tu penses que c'est le genre de truc, s'il y avait une volonté de l'éditeur, ça pourrait le faire ?
Ouais, et puis en plus, le développeur, c'est Platinum Game, donc ils sont...
Ah, ils savent faire des trucs un peu sympas.
Ils arriveront à faire rentrer le jeu, je pense. C'est pas non plus, enfin... C'est pas un jeu qui, visuellement, a l'air très exigeant.
Tu veux que je te rappelle l'exemple de Rime ?
Ouais, non, c'est clair, mais en même temps, c'était mal foutu, Rime. Au moins, Nier Automata sur PS4, il tourne bien.
Ouais, voilà, mais c'est... Donc des portages de l'impossible de ce genre-là, t'en vois pas forcément trop. Enfin, c'est vrai que c'est quand même difficile à prédire. Mais s'il y en avait un, tu te dirais Nier Automata, ce serait plutôt un bon candidat.
Ça pourrait être un bon candidat, ou le prochain Dragon Ball Z.
Apparemment, le Dragon Ball Fighter Z est prévu. Hein.
On sait pas trop, mais...
Il y a une rumeur un peu persistante, comme quoi...
Après, oui. C'est à quel point c'est compliqué de porter les jeux sur la Switch, quoi. C'est la vraie question.
Mais je pense que, enfin, je sais pas si c'est si évident que ça. J'ai l'impression que Panic Button, ils ont quand même un sacré bagage derrière eux. C'est-à-dire que là, ils en sont quand même à deux beaux portages sur deux. Je sais pas s'ils ont fait d'autres choses pour Switch entre deux, mais voilà. Il y a quelques autres jeux qui sont sortis et qui marchaient très bien. Je sais que Snake Pass sur Switch marchait plutôt bien. Un jeu Unreal Engine 4, mais qui était toute première génération de jeux Switch, mais qui marchait déjà très bien. Alors effectivement, il y a des détails en moins, c'était 30 frames par seconde maximum, la résolution était... je crois que c'était quand même 1080p docké et 720p en portable, mais assez bien. Donc je me dis qu'il y a peut-être des gens qui oseront.
Est-ce qu'on va avoir un Star Wars Battlefront 2 sur Switch ?
Eh bien, tu auras seulement le pistolet de Dark Vador, dans un premier temps.
Le pistolet... Hein ?
Bami ? Ben oui, tu n'auras que ça.
Non, Star Wars Battlefront, je pense pas.
Bah, de toute façon, c'est Frostbite Engine, donc pour l'instant, c'est non. D'un côté, Electronic Arts, ils feront pas l'effort d'adapter le moteur sur Switch, si j'ai bien compris. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas.
Non, ils en ont rien à branler.
Bah, Electronic Arts, j'ai un peu du mal à comprendre leur position parce que c'est genre on développe pas chez Nintendo parce que les consoles marchent pas, et quand les consoles marchent, c'est bon, ta gueule.
On est trop intelligent pour acheter leur jeu.
C'est pour ça, peut-être. Ils arriveront jamais à le vendre. Bref. Bon, eh bien, on va peut-être s'arrêter là parce qu'il commence à se faire drôlement tard. C'est bien, les émissions Doom, c'est des émissions à rallonge, mais je pense qu'on a bien balayé le jeu et que c'était quand même. Enfin, ça fait plaisir d'en parler, et c'est vrai que c'est quand même un sacré bon jeu. Et le fait de pouvoir en profiter sur Switch, ce que je trouve assez extraordinaire, je me permets une dernière digression. La Switch, c'est quand même la console aujourd'hui où tu peux jouer à Zelda et à Skyrim, et à Super Mario Odyssey et à Doom. C'est-à-dire que tu peux jouer à peu près à tout. Vraiment tout. Alors effectivement, c'est pas le meilleur jeu c'est pas la meilleure version de Doom, c'est pas l'expérience ultime Doom, machin... Mais basiquement, si tu veux y jouer dans le métro, tu peux. C'est
sur petit argument
chiottes. De vente, quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire, le PC dans le métro, c'est pas top.
Bah écoute, après, comme tu veux, hein. Tu peux tenter des trucs. Faut une grosse batterie. C'est ça le plus problématique. Alors moi, personnellement, Doom dans les chiottes, je ne le conseille pas, hein, parce que c'est des coups à se chier dessus, littéralement. Très compliqué.
Si t'es constipé...
Écoute, moi j'ai essayé une fois, et c'est la première fois que je voyais une invocatrice dans le jeu, je te garantis que... ça n'aide pas à détendre tes sphincters. C'était très compliqué comme... très 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 compliqué. Bref, Doom, c'est bon, mangez-en. Même la version Switch, allez-y, les yeux fermés. Si vous avez jamais fait la version PC, si vous n'avez pas envie de faire la version PC, ou si vous avez envie d'y jouer à la plage, aux chiottes, à la campagne, chez vos beaux-parents, chez vos grands-parents et tout ça, allez-y, il n'y a aucun souci. On va terminer par la citation du jour, qui pour une fois est une vraie citation d'Hideo Kojima qui m'a bien fait marrer.
Konami va te faire foutre.
Ce n'est pas celle-là. Il y a beaucoup de jeux où on combat des aliens ou des zombies, et ils ont de très très beaux graphismes, mais ils ne posent jamais les vraies questions. Par exemple, pourquoi tous ces événements arrivent ? Alors, Hideo Kojima, c'est un message personnel pour toi. Faudra un jour que tu nous expliques aussi, toi, pourquoi les événements arrivent dans tes jeux, parce qu'on comprend pas. Voilà, on n'a jamais compris. Je suis désolé, hein, c'est pas possible. Bref.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien. Bon, la semaine prochaine, on parlera de lootbox et de jeux d'argent. Parce que ça chauffe bien en ce moment et on a tout un tas de choses très intéressantes à dire sur le sujet. J'espère que le débat va être très animé, mais je pense que ça le sera. En attendant, on vous dit ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis. Gros bisous et à la semaine prochaine.
Salut.
Bisous.
Salut.